Chapitre 29. Je tiens absolument à faire cette excursion, insiste Anne. Marie la regarde d'un air perplexe. Anne, tu as conscience que tu seras enfermée sous l'eau?
Bien sûr. C'est le principe d'un sous-marin. Honolulu est réputé pour ses fonds. Je ne veux pas manquer ça. Je suis sûre que ça va aller.
Ok, alors on vient avec toi, conclut Camille. Le bus est quasiment vide, la plupart des passagers ayant vraisemblablement préféré le plein air. Troisième rang, côté couloir, jambes tendues, sac sur le siège voisin, Loïc est plongé dans un guide touristique. Pendant qu'Anne et Camille se dirigent vers la banquette du fond, Marie se poste devant lui et se racle la gorge. L'ours n'a pas perdu ses réflexes et lève la tête vers l'importun avec un air revêche. En la voyant, il esquisse un sourire, plie ses jambes et prend son sac sur ses genoux. Ils ne se sont pas revus depuis la scène dans le bureau du directeur. Marie s'assoit et entame la conversation. « Alors, toi aussi tu veux te prendre pour le capitaine Nemo ?»«
Eh oui, » répond-il avant de replonger dans son livre jusqu'à la fin du trajet.
Ce type a vraiment un comportement étrange. L'Atlantis est le plus grand sous-marin civil au monde. Assis sur des sièges en plastique, les passagers écoutent le guide pendant la descente. À 30 mètres de fond, l'engin se stabilise et entame sa promenade au ras du sable. À travers les hublots, le spectacle est stupéfiant. Au milieu des coraux et des épaves englouties évoluent poissons colorés et tortues hawaïennes. « C'est merveilleux, » chuchote Marie. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi apaisant. »«
Pareil, » murmure Camille. « Je pourrais rester là des heures. T'en penses quoi, Anne ?»«
Anne ?»
Anne se demande ce qu'elle fait là, répond-elle en respirant lentement. « Je compte les secondes, plus que 3250 avant de retrouver la surface. »
3250 secondes plus tard, la porte étanche s'ouvre et Anne se précipite dehors.
« Plus jamais ! Je ne vois pas comment j'ai pu croire que je pourrais aimer ça !»
Camille rit. « Tu t'en es bien tirée ? T'es même pas tombée dans les pommes !
Tu peux être fière de toi !»
T'as réussi à apprécier un peu quand même ? Demande Marie.
Oui, j'ai apprécié la sortie.
Sur le bateau qui les ramène à Waikiki Beach, Marie est assise face à Loïc. Il a les yeux fermés et le visage tourné vers le soleil. Juste à côté de lui, le guide français ne la quitte pas des yeux, tellement qu'elle en est gênée. Il y a longtemps qu'un homme ne l'a pas observée comme ça. Elle détourne le regard et le pose au loin, sur la plage qui se rapproche. Un groupe de personnes vêtues de blanc sont rassemblées autour d'un couple et d'une arche fleurie. Un mariage. Elle secoue la tête. Quand elle était enfant, elle se demandait pourquoi les adultes disaient « les pauvres » chaque fois qu'ils entendaient les klaxons d'un convoi de mariage. Elle trouvait ça plutôt chouette. Tout ce bruyant bonheur. Aujourd'hui, elle réalise avec tristesse que la première pensée qui lui vient à la vue des jeunes mariés, c'est « les pauvres ». Elle a longtemps été convaincue de la solidité de ce pacte, depuis l'époque où elle célébrait les noces de Barbie et Ken. Le divorce de ses parents, lorsqu'elle avait 12 ans, a encore accru son envie de réussir son mariage. À l'adolescence, quand ses copines tapissaient leurs murs de posters de chanteurs à voix cassée, elle recouvrait les siens de robes de mariée découpées dans des magazines. Son mariage, elle l'imaginait comme dans les dessins animés, avec une robe de princesse, des paillettes dans les yeux et une demande à genoux à terre. Quand elle est tombée enceinte, Rodolphe lui a dit que ce serait bien qu'il se marie. Elle n'avait qu'à s'occuper des formalités. Elle venait d'avoir sa demande entre le fromage et le dessert. Ça a quand même été une belle journée. Elle épousait celui qu'elle aimait, il épousait celle qu'il aimait. Il y avait tous leurs proches. Elle a réussi l'exploit de faire cohabiter ses deux parents dans la même pièce toute une journée, sans incident majeur. Elle portait une robe de grossesse bleue et un voile dans les cheveux. Les jeunes mariés se sont promis de rester liés jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle a essayé de s'y tenir jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle attendait cela avec impatience. Ce serait bien qu'il arrête de la fixer maintenant. À Honolulu, Marie et Anne arpentent les rues à la recherche de la carte postale idéale, pendant que Camille est partie mater les surfeurs. Dans une petite boutique de souvenirs, Anne trouve son bonheur. La photo représente un couple qui saute devant un coucher de soleil. En sortant, les deux femmes tombent sur le guide français, qui semble les attendre.
Il s'avance vers Marie.
Marie, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, bredouille-t-elle.
Il passe sa main dans ses cheveux.
Ça vous dirait de dîner avec moi ce soir ? Je crois savoir que vous restez à quai jusqu'à demain.
C'est très aimable à vous, mais j'ai quelque chose de prévu avec mes amis ce soir.
Au revoir, répond-elle en s'éloignant.
Anne la retient.
Mais pas du tout. Nous n'avons rien prévu. Elle peut tout à fait venir dîner avec vous.
Malgré un coup de pied dans le mollet, Anne organise la soirée avec le guide sans que Marie ne puisse rien y changer.
Il est très beau garçon. Ça te fera le plus grand bien, décrète Anne alors qu'elle s'éloigne.
Tu sais bien que je ne veux plus d'homme dans ma vie, je m'en fous, je vais lui poser un lapin.
Taratata, tu vas y aller. C'est justement quand on n'en veut plus que l'amour nous tombe dessus. Au pire, ça te changera les idées. Et tu verras qu'ils ne sont pas tous aussi mauvais que ton Rodolphe. Je suis sûre que tu me remercieras un jour.
Marie souffle.
Ok, j'y vais. Mais je te préviens, je me vengerai.